Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 10 janvier 1870, Pierre Bonaparte assassine Victor Noir. Le 11 janvier 1870, le quotidien La Marseillaise paraît encadré de noir. C'est l'organe de presse le plus radical contre le Second Empire. Il est dirigé par le polémiste Henri Rochefort, qui tient lui-même la plume. Sur toute la largeur de la première page, il lance un véritable appel à l'insurrection. Le titre, d'abord. « Assassinat commis par le prince Pierre-Napoléon Bonaparte sur le citoyen Victor Noir. Tentative d'assassinat commise par le prince Pierre-Napoléon Bonaparte sur le citoyen Ulrich de Fontvieille. La prose est fulgurante. J'ai eu la faiblesse de croire qu'un Bonaparte pourrait être autre chose qu'un assassin. Voilà 18 ans que la France est entre les mains ensanglantées de ces coupe-jarrets qui, non content de mitrailler les républicains dans les rues, les attirent dans des pièges immondes pour les égorger à domicile. Peuple français, est-ce que décidément tu ne trouves pas qu'en voilà assez ? À midi, la Marseillaise est saisie, mais il est bien trop tard. En effet, 145 000 exemplaires sont déjà vendus. L'affaire peut apparaître comme un vulgaire fait divers. Cependant, le meurtrier est un membre de la famille impériale. La victime est un journaliste de l'opposition. L'affaire Victor Noir devient l'image de deux France qui s'opposent, l'Empire contre la République. Comment en est-on arrivé là ? Le Second Empire entame sa 18e année. Le bilan du régime présente des aspects positifs. La victoire de Crimée marque la revanche des traités de 1815 et de la défaite de Waterloo. La France s'est agrandie de Nice et de la Savoie. L'expansion économique donne au pays une réelle prospérité. Toutefois, Napoléon III conforte son pouvoir par la dictature. La Constitution de 1852 restreint la plupart des libertés. Néanmoins, à partir de 1860, le régime s'est libéralisé. L'empereur s'achemine vers une monarchie constitutionnelle. Le 2 janvier 1870, Émile Ollivier, naguère fougueux opposant républicain, forme le gouvernement. Candidat aux élections législatives de 1869, Henri Rochefort est triomphalement élu à Paris. Napoléon III l'autorise à rentrer de son exil bruxellois pour exercer son mandat parlementaire. Bien décidé à démolir le régime, il fonde la Marseillaise, dont le premier exemplaire paraît le 19 décembre 1869. Résolument socialiste, le journal attaque chaque jour l'empereur et la famille impériale. La Marseillaise emploie un jeune journaliste de 21 ans du nom de Ivan Salomon, connu des lecteurs sous le pseudonyme de Victor Noir. Il tient la rubrique « Boulevards et faubourgs ». C'est un grand garçon robuste, aux cheveux noirs et crépus, toujours riant et plaisantant. Il est originaire d'Attigny dans les Vosges. Il est issu d'une famille juive convertie au catholicisme. Victor Noir est lié avec le jeune publiciste Paschal Grousset, qui lui demande d'être son témoin dans une affaire d'honneur qu'il oppose au prince Pierre-Napoléon Bonaparte. Personnalité turbulente et violente, le fils de Lucien Bonaparte mène une existence mouvementée. Il vit modestement à Auteuil, de temps à autre. Il envoie un article au journal bonapartiste L'Avenir de la Corse. Sa prose est commentée sans indulgence par le quotidien républicain de Bastia, La Revanche, dont Paschal Grousset est le correspondant parisien. Les attaques répétées de La Revanche font perdre patience à Pierre Bonaparte. Il adresse à L'Avenir de la Corse une lettre qui est publiée dans laquelle il traite ses adversaires de nullité, de lâches Judas, d'escargots rampant sur le bronze pour rayer de leur bave, ou encore d'infimes folliculaires. Trois jours plus tard, le directeur de la Revanche, Lucien Tomasi, bâtonnier de Bastia, répond vertement dans la Marseillaise. Ernest Lavigne restitue la polémique. Il écrit « Grattez un Bonaparte, vous verrez apparaître la bête féroce ». Hors de lui, Pierre Bonaparte convoque en duel Henri Rochefort. Pachal Grousset fait de même avec Pierre Bonaparte. Il choisit ses témoins, Ulrich de Fontvieille, un ancien officier de 36 ans, et Victor Noir. Les deux hommes se présentent au domicile de Pierre Bonaparte. Ulrich de Fontvieille s'adresse à lui en ces termes. « Monsieur mon ami Victor Noir et moi, nous venons de la part de Pachal Grousset remplir une mission que cette lettre vous expliquera. » Et il lui tend la missive, Pierre Bonaparte s'en empare, il s'approche de la fenêtre et lit. La suite semble confuse, écoutons le récit du prince. « Le plus grand me frappe vivement à la joue gauche d'un coup de poing et je vis le plus petit s'armer d'un pistolet qu'il avait tiré de sa poche. Il a cherché à l'armer en s'appuyant sur la main gauche dans laquelle se trouvait l'étui du pistolet. Je me suis reculé de deux pas, j'ai tiré de ma poche droite un pistolet à cinq coups que je porte habituellement sur moi, j'ai tiré un coup sur le grand, j'étais à 2 ou 3 mètres de lui, il s'est retourné immédiatement et a quitté le salon par la salle d'armes par laquelle il était entré, tout cela n'a duré qu'un instant. Il ajoute que le second individu s'est enfui. Victor Noir descend l'escalier en chancelant. Il se cogne contre la porte cochère, trébuche et tombe sur les genoux et les mains sur le trottoir. Les témoins affirment que son visage est aussi blanc que sa chemise. Il est transporté chez un pharmacien voisin, un médecin accourt. Il constate le décès du jeune homme. En milieu d'après-midi, le commissaire Roideau se présente chez Pierre Bonaparte. Il lui apprend que le préfet de police ordonne son arrestation. Au matin du 12 janvier 1870, il fait froid et il pleut. Malgré les conditions climatiques peu favorables, 200 000 Parisiens rejoignent la maison de Victor Noir à Neuilly. Vers 13 heures, Henri Rochefort apparaît. Il est chaudement acclamé. Pourtant, il offre aux Républicains une image consternante. Il balbutie d'un ton hésitant que le cortège ne doit pas traverser Paris pour rejoindre le cimetière du Père-Lachaise, mais gagner celui de Neuilly, comme le souhaite le gouvernement. La foule manifeste son mécontentement. Louis Noir, le frère de Victor, paraît alors à la fenêtre avec une grande dignité. Il précise que la famille souhaite que le défunt soit inhumé à Neuilly. Le corbillard arrive, le cercueil couvert de lilas blanc y est placé, le cortège s'ébranle, il parvient avenue de Neuilly, là un choix s'impose, tourner à gauche vers Paris et c'est la révolution, tourner à droite vers le cimetière de Neuilly et renoncer à toute action immédiate. Louis Noir s'interpose, bouleversé, il s'écrie « Vous oubliez le respect dû aux morts, enterrons-le aujourd'hui, demain nous le vengerons ». Le seul espoir des Républicains est Henri Rochefort, tous se tournent maintenant vers lui. Il est blême, sa tête oscille, il s'évanouit. C'en est fait, le cortège poursuit son chemin vers le cimetière de Neuilly, où Louise Michel rend un ultime hommage à Victor Noir. Le 27 mars, les magistrats de la Haute Cour acquittent Pierre Bonaparte, qui est toutefois condamné à verser 25 000 francs de dommages et intérêts à la famille du défunt. Napoléon III ordonne à son cousin de vivre à l'étranger. Il se retire dans les Ardennes belges, à Herbemont. Victor Noir est aujourd'hui inhumé au cimetière du Père-Lachaise, où sa dépouille a été transférée. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama, avant de retrouver la chronique littéraire, Un jour, trois livres. C'est Michel Berger qui nous accompagne en chanson avec un titre de 1980, l'un de ses plus grands succès, La groupie du pianiste. «
la copie du canif. Dieu que cette fille a l'air triste, amoureuse d'un égoïste, la copie du canif. Elle fout toute sa vie en l'air, et toute sa vie c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire, à part rêver seule dans son lit. Le soir entre ses draps roses, elle passe sa vie à l'attendre, pour un mot, pour un geste tendre, la copie du canif. Devant l'hôtel dans les coulisses, elle rêve de la vie d'artiste, la copie du canif. Et même l'enfer c'est pas grand chose, à côté d'être seule sur terre. Et elle y pense seule dans son lit, le soir entre ses draps roses. Elle aime, elle adore, plus que tout elle aime, c'est beau comme elle aime. Elle aime, elle adore, c'est fou comme elle aime, c'est beau comme elle aime. Sur son sourire, elle a les droits sur ses désirs, la copie du pianiste. Elle sait rester là sans rien dire, pendant que lui joue ses délires, la copie du pianiste. Quand le concert est terminé, elle met ses mains sur le clavier, en rêvant qu'il va l'emmener passer le reste de sa vie, simplement à l'écouter. Elle sait comprendre sa musique, elle sait oublier qu'elle existe, la copie du pianiste. Mais Dieu que cette fille prend des risques, amoureuse d'un égoïste, la copie du pianiste. Elle fout toute sa vie en l'air, sa vie c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire, à part rêver seule dans son lit, le soir entre ses draps roses. Elle aime, elle adore, plus que tout elle aime, c'est beau comme elle aime. Elle aime, elle adore, c'est fou comme elle aime, c'est beau comme elle aime.
Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres consacrés aujourd'hui à une série que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer avec vous il y a à peu près un an, publiée par les éditions Gallimard dans la collection Folio Histoire et consacrée à l'histoire de France. Deux titres viennent de paraître au début de ce mois. La collection s'est enrichie de deux nouveaux volumes. Le premier est signé Boris Bov. Il évoque le temps de la guerre de 100 ans entre 1328 et 1453. Il nous invite à cheminer dans une période pour le moins tourmentée qui est marquée par les famines, la peste et les révoltes populaires, cet automne du Moyen-Âge, comme on le caractérise traditionnellement, est marqué par l'affirmation de l'État monarchique avec deux règnes qui méritent d'être signalés, celui de Charles V et celui de Charles VII, deux règnes qui coïncident avec un renforcement de l'autorité royale. Sylvie April nous transporte quant à elle au XIXe siècle avec la Révolution inachevée qui couvre la période allant de 1815, c'est-à-dire la chute du Premier Empire, à 1870, la chute du Second Empire. C'est le temps du romantisme et de l'affirmation du progrès. C'est le temps des révolutions, les trois glorieuses en 1830, la révolution de juillet, qui porte sur le trône Louis-Philippe, la branche des Orléans, la branche cadette de la famille royale. C'est aussi la révolution de 1848 qui voit l'avènement de la République, de la Seconde République, qui bientôt se jettera dans l'Empire. C'est aussi la révolution industrielle qui permet le développement économique de la France, qui s'affirme durant ce Second Empire avec les visions de Napoléon III. Précisons que chaque volume comprend un cahier hors texte de 12 cartes en couleur et une riche bibliographie. Je rappelle donc l'intitulé de ces deux nouveaux tomes de la série Histoire de France chez Gallimard dans la collection Folio Histoire. Ils sont sortis le 1er octobre, le temps de la guerre de 100 ans, 1328-1453, c'est signé Boris Bove, et La Révolution inachevée 1815-1870 de Sylvie April. Ainsi s'achève cette émission Historama. Merci à Lucas qui l'a réalisée. Et c'est en chanson que nous allons nous séparer, toujours avec Michel Berger, qui nous propose Mademoiselle Chang, un titre de 1981.
Cherche à perdre la mémoire. Loin de la mousson et du ciel bleu noir. Dans un monde qui n'a rien à voir. Déraciné par le hasard. Mademoiselle Chang,
c'est son arme blanche. Mademoiselle Chien, tout ce qu'elle demande, c'est de pouvoir comprendre ce qu'elle fait là. Mademoiselle Chien, si vous savez être tendre, elle se rapproche de vous. Mais non.